Strasbourg Pilote, Arts et Lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Annick Le Guerrer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue, historienne, philosophe. Vous êtes spécialiste de l'odorat. Vous venez de faire paraître aux éditions Odile Jacob, coécrit avec Bruno Fourne, Le parfum et la voix, une rencontre inattendue. Ce livre, nous l'avons présenté avec Monsieur Bruno Fourne la semaine dernière. D'ailleurs, ça a été déjà diffusé dans mon émission. Et ça m'a donné envie de vous interviewer, vous, puisque c'est lui qui avait répondu à mes questions pour le livre Le parfum et la voix, une rencontre inattendue. Et j'ai demandé aux éditions Odile Jacob de me faire parvenir vos livres précédents. Et j'ai choisi Le parfum des origines à nos jours. Et l'autre livre, c'est Les pouvoirs de l'odeur. Alors, est-ce que vous pouvez revenir, par exemple, sur ce titre, Le parfum des origines à nos jours?
Bien sûr. Eh bien, Le parfum des origines à nos jours, parce que le parfum a toujours accompagné nos civilisations, nos sociétés. Le parfum est le reflet de nos civilisations. Quand on voit aujourd'hui, par exemple, des parfums qui portent des noms comme Fuel, For Life, de Diesel, Garage, Dry Clean, de Comme des Garçons, des noms aussi comme Putain des Palaces, Sécrétion magnifique d'État libre d'orange, on voit bien que ces parfums reflètent une société de consommation. Et c'est en ça que le parfum est l'image des sociétés qui le génèrent. Autant des Égyptiens de l'Égypte pharaonique, les parfums portaient des noms tout autres. Il y avait par exemple le kifi, qui s'appelait aussi le parfum deux fois bon, le métopion, le parfum de Mendès. Vous voyez les longans divins et sacrés, parce que à cette époque, longans divins et sacrés, le parfum était essentiellement un objet culturel qui permettait de relier les hommes à leur dieu. Le parfum, chez les Égyptiens d'Égypte pharaonique, était essentiel au passage de la mort à la vie éternelle, puisque par les pratiques d'embaumement, les Égyptiens devenaient des parfumés, des dieux, au lieu de se défaire dans la putridité. Grâce aux pratiques d'embaumement avec les parfums, le défunt accédait à une vie éternelle à la condition de sentir bon. Et c'est en ça que les parfums reflètent toujours les sociétés qui les génèrent. Et lorsqu'on voit aujourd'hui des noms aussi banaux pour nommer des parfums comme Fuel, comme je vous le disais tout de suite, Ça renvoie à une autre image du parfum, à une autre utilisation du parfum. Heureusement, il y a des marques qui cherchent toujours à honorer le parfum en faisant des beaux flacons, des beaux produits, et en faisant des créations véritables. Mais il y a quand même à notre époque une tendance à traiter le parfum comme un produit de consommation.
Et quel est le but de ce parfum à produit de consommation? C'est de poser socialement celui qui le porte en disant « je suis dans le parfum », comme on dit, « je suis au parfum », c'est-à-dire « je suis moderne, je suis bien dans ma société, dans les repères de mon temps ». Est-ce que c'est ça, c'est pour se poser socialement?
C'est pour se démarquer un peu, pour prendre le contre-pied de toute une tradition sacrée, thérapeutique, esthétique du parfum. Et je pense que la personne qui achète Fuel for Life ou Garage ou Dry Clean cherche à être un peu à contre-courant. Or, en fait, elle n'est pas à contre-courant parce qu'il y a à l'heure actuelle quand même une consommation du parfum comme un objet de courant, vous voyez, d'hygiène, de sociabilité, mais courante. Et en fait, comme vous le notiez, la personne qui achète ce genre de parfum n'est pas contre-courant, mais elle est en plein dans l'air du temps. Elle suit une tendance qui est celle d'une société qui envisage le parfum comme un objet de consommation.
Alors, Annick Le Guerrer, dans ce livre dont nous parlons, Le parfum des origines à nos jours, vous retracez l'histoire de l'Antiquité à nos jours, l'âge d'or de Versailles et l'époque mythique des Coty, Caron, Guerlain, Chanel, Lanvin, Balmain. Et puis, il y a eu Estelle Auder, Thierry Mugler, Serge Lutens. Alors, quel est ce sillage qu'il y a entre toutes ces têtes parfumeuses et qui nous parfument, nous, les acheteurs?
L'époque que vous évoquez, celle des Coty, des Lanvin, des Chanel, des Patou au début du XXe siècle et des Guerlain bien sûr, c'était l'âge d'or de la parfumerie parce que la parfumerie de cette époque envisageait le parfum comme une véritable création et les parfums n'étaient pas soumis à des tests consommateurs, n'étaient pas soumis aux briefs marketing qui demandent aux parfumeurs de faire des parfums correspondant à telle tranche de la société, à quel âge d'homme ou de femme exerçant telle activité. Donc c'était l'âge d'or de la parfumerie française. Les parfumeurs utilisaient les matières premières qu'ils désiraient, sans souci du prix de revient du parfum. Et toutes ces maisons ont donné de véritables créations. Vous citiez l'heure bleue un petit peu précédemment. L'heure bleue qui a été créée par Jacques Guerlain était une véritable création. Jacques Guerlain l'a créée en traversant le pont des Arts à l'heure du coucher du soleil. Et il a été très ému par la lumière bleue qui inondait le pont. Et il a eu l'idée d'un parfum très raffiné, très enveloppant, aussi très, très captivant, l'heure bleue qui est un oriental, avec de la fève tonka, de la vanille, et un produit que l'on n'utilise plus aujourd'hui, le musc tonkin. Le musc tonkin, c'est une sécrétion qui vient d'un animal qui vit dans l'Himalaya, qui vit au Tibet, et qui a sous le ventre une poche qui contient une sécrétion. Alors, pour recueillir cette sécrétion, il faut tuer l'animal, mais cette sécrétion ajoutée aux matières premières naturelles et de synthèse, parce qu'il y avait aussi un peu de synthèse dans l'heure bleue, donne beaucoup de sillage, de puissance, de volume au parfum. Mais depuis les années 73, on ne peut plus importer de musc tonkin parce que l'animal a été trop poursuivi et il est menacé d'extinction.
Alors,
mais
comment...
donc, vous voyez, oui. L'heure bleue, c'était une véritable création.
Comment fait-on pour fabriquer l'heure bleue à l'heure actuelle? J'en ai acheté hier. Et alors, si on ne peut plus avoir accès au musc, si c'est interdit depuis 1973, est-ce que c'est un musc de synthèse?
De synthèse, c'est un musc de synthèse. Mais le musc de synthèse n'a pas tout à fait la même odeur que le musc naturel. Le leurre bleu que vous avez acheté il y a quelques jours, hier, m'avez-vous dit?
Oui.
N'étant pas du musc naturel, n'a pas véritablement la même odeur et le produit que vous portez n'est pas tout à fait le même que le produit originel créé par Jacques Guerlain.
Je m'en suis rendu compte parce que la personne qui m'a vendu m'a fait sentir une petite éprouvette et ça, je suis tombée amoureuse de cette odeur. Je l'ai achetée et lorsque je l'ai reçue, que j'ai senti, j'ai vu qu'il y avait une petite différence. J'avais vraiment l'impression en sentant l'éprouvette, que c'était un parfum enveloppant. J'ai même imaginé qu'il y avait du lotus bleu, qu'il y avait un peu d'encens. Et là, c'est un peu plus plat.
Oui, mais et en plus de ça, c'est certainement plus plat parce que pour obéir aux consignes de sécurité dictées par l'IFRA et par la Commission européenne, il y a toute une série de produits qui sont utilisés, qui doivent être utilisés en conditions limitées ou même qui sont interdits. Et dans leur bleu, comme dans beaucoup de parfums de l'époque de Jacques Guerlain, beaucoup de matières premières ont dû être remplacées par d'autres parce qu'elles sont soit interdites, soit elles doivent être, comme je vous le disais, utilisées dans des quantités limitées. Donc les leur bleu, le Chalimard, tous les parfums Jacques Guerlain, ne sont plus exactement les mêmes aujourd'hui.
Oui, je voulais vous demander, vous poser la question sur le nez. Comment devient-on un nez? Est-ce qu'il y a des écoles? Comment ça se passe? Puisque pour faire un parfum, il y a une personne qui ressent, qui cherche les couleurs, qui cherche les molécules. Il y a un nez. Qu'est-ce qu'un nez?
Alors, un nez, c'est un apprenti parfumeur-compositeur. C'est quelqu'un qui apprend à composer des parfums. Il y a deux grandes écoles en France en ce moment, l'ISIPCA à Versailles et l'École supérieure du parfum à Paris dans le 15e. Alors, la plupart des apprentis parfumeurs, notamment à Versailles, même tous, font d'abord des études de chimie. À l'École supérieure du parfum, je pense que ce n'est pas obligatoire. Et ensuite, ils étudient les matières premières, naturelles et de synthèse. Ils apprennent à les assembler, à faire des accords. Mais au départ, les parfumeurs ne faisaient pas d'école. Ils apprenaient avec leur père, leur grand-père. Le travail de parfumeur, c'était un travail familial. À Grasse, il y avait des écoles où les enfants apprenaient dans leur famille à faire des parfums. Et donc, ils ne faisaient pas de chimie. Ils n'avaient pas besoin de faire de chimie. D'abord, on peut faire un parfum sans faire de la chimie. C'est comme on demande aujourd'hui aux médecins de faire des études de mathématiques pour devenir un médecin. C'est une convention, en fait. Mais les parfumeurs, au départ, n'avaient pas besoin de faire de chimie. On leur demandait quand même de cultiver leur ouverture artistique. Et le grand parfumeur Edmond Runitzka, celui qui a créé l'eau sauvage, était le premier à dire que la chimie n'était pas nécessaire pour devenir parfumeur, mais ce qui était nécessaire, c'était de bien apprendre à identifier les matières premières, à reconnaître les odeurs et à s'ouvrir à tous les arts, à se cultiver. Parce que le travail du parfumeur n'est pas simplement un travail olfactif, mais c'est un travail d'imagination et de mémoire. Et Edmond Runitzka disait souvent que le travail du parfumeur était un travail intellectuel, que le parfumeur ne faisait pas ses parfums, ses parfums avec son nez, mais avec son intellect, et que même s'il perdait l'odorat, il devait être capable de continuer à faire des parfums, de la même façon que Beethoven, devenu sourd, était capable de créer la 9e symphonie. Et Edmond Runitzka a lutté toute sa vie pour faire reconnaître le travail du parfumeur comme un travail artistique. Et d'ailleurs, maintenant, il est en train de gagner la partie, puisque les parfumeurs commencent aujourd'hui à parler de leur art, à comparer le travail de composition olfactif au travail du compositeur de musique, aussi au travail de l'écrivain, les odeurs permettant de s'exprimer, comme l'écrivain s'exprime avec des mots. Donc la reconnaissance artistique du travail du parfumeur est en train de se faire. Et il y a quelques années, le ministère de la Culture m'avait demandé de faire une exposition sur le travail du parfumeur, et cette exposition s'appelait « Le ministère se met au parfum ». Et donc de montrer que le travail du parfumeur était un travail artistique.
Alors, Annick Le Guerrer, nous allons parler maintenant, si vous le voulez bien, de votre autre livre, « Les pouvoirs de l'odeur ». Alors là, je lis quelques lignes. L'histoire de la petite Madeleine que Proust, un jour d'hiver, trempe dans une tasse de tisane, son odeur et sa saveur font ressurgir de façon très concrète et très vivante le village de Combray, où il allait passer ses vacances chez sa tante Léonie quand il était enfant. Cette capacité si particulière qu'ont les odeurs de ressusciter le passé dans toute sa fraîcheur est due au lien étroit que l'odorat entretient avec la zone du cerveau impliquée dans la mémoire et les émotions. Vous êtes très sensible à ce trajet entre la mémoire, le sentiment et ce qui se passe au moment de l'olfaction.
Bien sûr, les odeurs ont cette vocation toute particulière à évoquer des souvenirs de façon très vivante et immédiate et involontaire. Lorsque Proust porte à son nez et à son goût cette petite Madeleine, tous ces souvenirs d'enfance à Combray chez sa tante Léonie ressurgissent de façon immédiate et très très vivante et très émotionnelle. Parce que comme vous le soulignez là, l'odorat est très lié aux zones du cerveau qui sont impliquées dans la mémoire et les émotions. Et on a d'autres exemples dans la littérature de ces moments de résurgence des souvenirs grâce aux odeurs. Lorsque George Sand est à Venise et qu'elle s'est séparée de son grand amour, le poète Alfred de Musset, qui est reparti à Paris, elle est très nostalgique du temps de leur entente et de leurs amours. Et elle lui écrit une lettre en lui demandant qu'il aille lui chercher le parfum qu'elle portait au temps de ses amours avec lui. Et ce parfum, justement, elle dit, pour moi, quand je le sens, il ressuscite toutes tout ce que j'ai vécu avec toi, il fait revivre la passion, il fait revivre l'affection, l'amour qu'elle a eu pour cet homme. Et là, on voit combien le parfum est puissant à faire ressurgir le souvenir de quelqu'un. Et donc, Alfred de Musset va dans la parfumerie Le Blanc, rue Sainte-Anne, lui acheter un parfum au patchouli qu'elle portait du temps de leur amour. Et elle lui dit, l'affection, l'amour d'un être cher n'est plus qu'un parfum, et ce parfum, je vais le mettre sur mon cœur, et il sera dans un flacon scellé sur mon cœur. On voit combien le parfum est évocateur de tout un passé qui le fait ressurgir de façon brillante, chaleureuse, très très émotionnelle.
Alors, le parfum est en train de subir une perte graduelle dans l'odorat humain, c'est-à-dire que l'odorat humain, cette compétence, commence à disparaître, parce que c'était un talent archaïque. Rappelons-nous le flair qui permet à l'animal de trouver une trajectoire, le flair pour la survie. Et là, il semble que l'odorat se perde chez l'être humain, dans nos sociétés modernes.
Alors, c'est la théorie de Sigmund Freud. Freud pensait que nos lointains ancêtres, qui marchaient à quatre pattes, avaient un odorat très très développé parce que leur nez était près du sol. Et qu'en se redressant sur leurs deux jambes, en se verticalisant, leur nez s'est éloigné du sol et qu'ils ont refoulé leur odorat et aussi leur sexualité, parce que nos lointains ancêtres, selon Freud, qui marchaient à quatre pattes, n'étaient que des êtres capables d'activités animales, se nourrir, chercher la nourriture, chercher un compagnon pour se reproduire. Donc, pour lui, l'éloignement de l'odorat du sol et la perte d'odorat aurait permis la fondation de la famille et le développement de la civilisation. Donc, si l'on en croit Freud, nous nous serions civilisés grâce à la perte en grande partie de notre odorat. Alors, évidemment, Freud avait une vision de l'odorat qui était celle de son époque. L'odorat passait pour un sens animal, archaïque, ayant un petit vocabulaire. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup évolué parce que cette conception de l'odorat comme un sens archaïque animal a empêché les savants d'étudier l'odorat, et l'odorat commence véritablement à être étudié depuis les années 2000. Et en 2003, deux neuroscientifiques ont reçu le prix Nobel pour leurs travaux sur l'odorat. Donc depuis les années 2003, l'odorat est complètement réhabilité et mieux connu. Mais lorsque j'ai commencé à travailler sur l'odorat et les odeurs et le parfum, dans les années 80, l'odorat encore à cette époque passait pour un sens moins intéressant que la vue et que l'ouïe, faute d'études scientifiques importantes, et c'était un sujet un peu tabou. Aujourd'hui, même très tabou, aujourd'hui il est complètement réhabilité, il y a une foule de travaux sur l'odorat qui paraissent chaque année, mais à mon époque, ce n'était pas le cas. Et trouver un poste à l'université en travaillant sur l'odorat était chose difficile. Alors, cette évolution de la façon dont nous voyons, dont nous concevons l'odorat, a aussi des applications dans la thérapeutique, parce que le parfum aujourd'hui, et j'y ai contribué, je pense, beaucoup, le parfum n'est plus simplement conçu comme un objet de utilisé pour séduire, mais aussi pour apporter du bien-être, pour protéger. Et là, le parfum est en train de retrouver une fonction que nos contemporains avaient oubliée, sa fonction prophylactique et thérapeutique. Le parfum était en effet le premier médicament. Dès l'Antiquité, il a été utilisé pour protéger les humains des maladies et aussi pour se soigner. Protéger des maladies parce que chez les Égyptiens, les Grecs, les Romains, et jusqu'au 19e siècle, on a utilisé les plantes aromatiques pour se préparer des compositions qui nous protégeaient des maladies et qui nous soignaient. Et je peux vous donner un exemple d'un parfum très ancien, le kifi. Le kifi est un parfum de l'Égypte pharaonique, 16 siècles avant Jésus-Christ, et un parfum qui contenait du souchet, de la térébinthe, du roseau aromatique, du jonc dorant, du nard, des fleurs de genêt, du miel, des grains de genièvre, de la myrrhe. Et ce parfum servait à honorer les dieux lorsqu'on le brûlait, mais lorsqu'on le mettait dans un liquide et qu'on l'avalait, il soignait les maladies pulmonaires, hépatiques et intestinales. Et il servait aussi, quand on le respirait, à détendre, comme le fait la musique, comme le fait la lyre, disaient les Égyptiens. Il servait aussi à détendre et à euphoriser. Et aujourd'hui, le parfum est en train de retrouver cette fonction thérapeutique, notamment dans les centres de gériatrie, dans les EHPAD, dans les hôpitaux. On se sert des huiles essentielles pour apaiser, détendre les malades. Et donc, le parfum recommence à être utilisé sous cette forme-là.
Annick Le Guerrer, merci de nous avoir parlé de vos derniers livres, Le parfum des origines à nos jours et Les pouvoirs de l'odeur. Ce sont des livres qui sont réédités. Comment peut-on les trouver? Parce qu'ils ont été écrits avant, il y a quelque temps, n'est-ce pas?
Alors, Les pouvoirs de l'odeur, la première édition date de 1988. Il est toujours en vente, il y a eu plusieurs éditions, il est toujours en vente et Le parfum des origines à nos jours est toujours réédité aussi. C'est chez Odile Jacob. Et si vous voulez en savoir plus sur les effets thérapeutiques du parfum, il faut aller voir l'exposition Parfum d'histoire, du soin au bien-être à Saint-Antoine-l'Abbaye dans l'Isère et j'en suis la commissaire scientifique.
Je vous remercie infiniment, c'est tout à fait passionnant et j'espère avoir l'occasion de parler avec vous prochainement sur d'autres livres et d'autres parutions qui sont les vôtres. Merci beaucoup, Annick.
Avec grand plaisir et je vous remercie de votre attention et de vos questions.
Strasbourg Pilote. Arts et lettres, le mardi de 9h à 10h et mercredi de 17h à 18h. Avec C'est Solange. Ah.